Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc dans Lectures en liberté pour la suite du roman de Siménon, Le chien jaune. À 9h du soir, l'hôtel était une sorte de quartier général. Deux nouveaux reporters étaient arrivés. L'un rédigeait son papier à une table du fond. De temps en temps, un photographe descendait de sa chambre. « Vous n'auriez pas de l'alcool à 90 degrés, il m'en faut absolument pour sécher les pellicules. Le chien est prodigieux. Vous dites qu'il y a une pharmacie à côté. Fermée ? Peu importe. » Dans le corridor où se trouvait l'appareil téléphonique, un journaliste dictait son papier d'une voix indifférente. « Maigret, oui. M comme Maurice, A comme Arthur, oui. I comme Isidore. Prenez tous les noms à la fois. Michou. » M, I, chou, comme chou de Bruxelles. Mais non, mais pas comme pou. Attendez, je vous donne les titres. Cela passera dans la une. Si, dites au patron qu'il faut absolument que ça passe en première page. Dérouté, l'inspecteur Leroy cherchait sans cesse Maigret des yeux, comme pour se raccrocher à lui. Dans un coin, l'unique voyageur de commerce préparait sa tournée du lendemain à l'aide du bottin des départements. De temps en temps, il appelait Emma. « Chauffier, c'est une quincaillerie importante ?»« Merci. » Le vétérinaire avait extrait la balle et entouré l'arrière-train du chien d'un pansement roide.
Bah, « Ces bêtes-là, ça a la vie tellement dure !»
On avait étendu une vieille couverture sur de la paille dans le réduit dallé de granit bleu qui ouvrait à la fois sur la cour et sur l'escalier de la cave. Le chien était couché là, tout seul, à 10 centimètres d'un morceau de viande auquel il ne touchait pas. Le maire était venu en auto. Un vieillard à barbiche blanche, très soigné, aux gestes secs. Il avait sourcillé en pénétrant dans cette atmosphère de corps de garde, ou plus exactement, de PC de compagnie.
« Mais qui sont ces messieurs ?»«
Des journalistes de Paris. » Le maire était à cran.
« Magnifique ! Si bien que demain, c'est dans toute la France qu'on parlera de cette stupide histoire. Vous n'avez toujours rien trouvé !»
« L'enquête continue, grogna Maigret, du même ton qu'il eût déclaré « Cela ne vous regarde pas !»
Car il y avait de l'irritabilité dans l'air. Chacun avait les nerfs à fleur de peau.
« Et vous, Michou, vous ne rentrez pas chez vous ?»
Le regard du maire était méprisant, accusait le docteur de lâcheté.
« Ah, ce train-là, c'est la panique générale dans les 24 heures. Ce qu'il fallait, je l'ai dit, c'était une arrestation, n'importe laquelle !» Et il souligna ces derniers mots d'un regard lancé à Emma.
« Mais je sais que je n'ai pas d'ordre à vous donner. Quant à la police locale, vous ne lui avez laissé qu'un rôle dérisoire. Mais je vous dis ceci, encore un drame, un seul, et ce sera la catastrophe. Les gens s'attendent à quelque chose. » Des boutiques qui, les autres dimanches, restent ouvertes jusqu'à 9h, ont fermé leurs volets. Et puis ce stupide article du Phare de Brest a épouvanté la population.
Le maire n'avait pas retiré son chapeau melon de sa tête et il l'enfonça davantage en s'en allant après avoir recommandé « Je vous serai obligé de me tenir au courant, commissaire. Et je vous rappelle que tout ce qui se fait en ce moment se fait sous votre responsabilité. »
« Un demi, Emma, » commanda Maigret.
on ne pouvait pas empêcher les journalistes de descendre à l'hôtel de l'amiral, ni de s'installer dans le café, de téléphoner, de remplir la maison de leur agitation bruyante. Ils réclamaient de l'encre, du papier, ils interrogeaient Emma qui montrait un pauvre visage effaré. Dehors, la nuit noire, avec un rayon de lune qui soulignait le romantisme d'un ciel chargé de lourds nuages au lieu de l'éclairer. Et cette boue qui collait à toutes les chaussures, car Concarneau ne connaît pas encore les rues pavées. « Le Pommeret vous a dit qu'il reviendrait, » lança Maigret à Michou. « Oui, il est allé dîner chez lui. L'adresse ?» demanda un journaliste qui n'avait plus rien à faire. Le docteur la lui donna, tandis que le commissaire haussait les épaules, attirait le roi dans un coin. « Vous avez l'original de l'article paru ce matin. Je viens de le recevoir, il est dans ma chambre. Le texte est écrit de la main gauche par quelqu'un qui craignait donc que son écriture ne fût reconnue. » « Pas de timbre ?»« Non, la lettre a été jetée dans la boîte du journal. Sur l'enveloppe figure la mention « Extrême urgence ». Si bien qu'à 8h du matin au plus tard, quelqu'un connaissait la disparition de Jean Servière, savait que l'auto était ou serait abandonnée près de la rivière et qu'on relèverait les traces de sang sur le siège. Et ce quelqu'un, par surcroît, n'ignorait pas que l'on découvrirait quelque part les empreintes d'un inconnu au grand pied.
« C'est incroyable !» soupira l'inspecteur.
« Quant à ces empreintes, je les ai expédiées au quai des Orfèvres, par bélinogramme. Ils ont déjà consulté les sommiers, j'ai la réponse, elles ne correspondent à aucun fichier de malfaiteur. » Il n'y avait pas à s'y tromper. Le roi se laissait gagner par la peur ambiante. Mais le plus intoxiqué, si l'on peut dire, par ce virus, était Ernest Michou, dont la silhouette était d'autant plus falote qu'elle contrastait avec la tenue sportive, les gestes désinvoltes et l'assurance des journalistes. Il ne savait plus où se mettre. Maigret lui demanda « Vous ne vous couchez pas ?»
Pas encore, je ne m'endors jamais avant 1h du matin. »
Il s'efforçait d'esquisser un sourire raté qui montrait deux dents en or.
Franchement, qu'est-ce que vous pensez ?
L'horloge lumineuse de la vieille ville égrena 10 coups. On appela le commissaire au téléphone, c'était le maire.
Rien encore ?
Est-ce qu'il s'attendait lui aussi à un drame ? Mais au fait, Maigret ne s'y attendait-il pas lui-même ? Le front têtu, il alla rendre visite au chien jaune qui s'était assoupi et qui, sans peur, ouvrit un œil et le regarda s'avancer. Le commissaire lui caressa la tête, poussa un peu de paille sous ses pattes. Il aperçut le patron derrière lui. « Vous croyez que ces messieurs de la presse vont rester longtemps ? Parce qu'il faudrait dans ce cas que je songe aux provisions. C'est demain à 6h le marché. » Quand on n'était pas habitué à Maigret, c'était déroutant en pareil cas de voir ses gros yeux vous fixer au front comme sans vous voir, puis de l'entendre grommeler quelque chose d'inintelligible en s'éloignant avec l'air de vous tenir pour quantité négligeable. Le reporter du Petit Parisien rentrait, secouait son ciré ruisselant d'eau. « Tiens, il pleut. Quoi de neuf, Grolin ?» Une flamme pétillait dans les prunelles du jeune homme qui dit quelques mots à voix basse au photographe qui l'accompagnait, puis décrocha le récepteur du téléphone. « Petit Parisien, mademoiselle, service de presse, priorité quoi ? Vous êtes relié directement à Paris ? Alors donnez vite, allô ? Allô ?
Le Petit Parisien.
Mademoiselle Germaine. Passez-moi la sténo de service. Ici Grolin. » Sa voix était impatiente et son regard semblait défier les confrères qui l'écoutaient. Maigret, qui passait derrière lui, s'arrêta pour écouter. Allô, c'est vous, mademoiselle Jeanne ? En vitesse, hein ? Il est encore temps pour quelques éditions de province. Les autres ne l'auront que dans l'édition de Paris. Vous direz au secrétaire de rédaction de rédiger le papier. Je n'ai pas le temps. Affaire de Concarneau. Nos prévisions étaient justes. Nouveau crime. Allô ? Oui, crime. Un homme tué, si vous aimez mieux.
Tout le monde s'était tu. Le docteur, fasciné, se rapprochait du journaliste qui poursuivait, fiévreux, triomphant, trépignant.
Après M. Mostaguen, après le journaliste Jean Servière, M. Le Pommeret, oui, je vous ai épelé le nom tout à l'heure, il vient d'être trouvé mort dans sa chambre, chez lui. Pas de blessure, les muscles sont raidis et tout fait croire à un empoisonnement. Attendez, attendez, terminé par « La terreur règne », oui. Courez voir le secrétaire de rédaction, je vous dicterai tout à l'heure un papier pour l'édition de Paris, mais il faut que l'information passe dans les éditions de province.
Il raccrocha, s'épongea, jeta à la ronde un regard de jubilation. Le téléphone fonctionnait déjà.
« Allô, le commissaire ? Il y a un quart d'heure qu'on essaie de vous avoir. Ici, la maison de M. Le Pommeret. Vite ! Il est mort !»
Et la voix répéta dans un ululement « Mort !» Maigret regarda autour de lui. Sur presque toutes les tables, il y avait des verres vides. Emma, exsangue, suivait le policier des yeux.
« Qu'on ne touche ni à un verre ni à une bouteille, commanda-t-il. Vous entendez, le roi ? Ne bougez pas d'ici !»
Le docteur, le front ruisselant de sueur, avait arraché son foulard et on voyait son cou maigre, sa chemise maintenue par un bouton de colle à bascule.
Quand Maigret arriva dans l'appartement de Le Pommeret, un médecin qui habitait la maison voisine avait déjà fait les premières constatations. Il y avait là une femme d'une cinquantaine d'années, la propriétaire de l'immeuble, celle-là même qui avait téléphoné. Une jolie maison en pierre grise face à la mer, et toutes les 20 secondes, le pinceau lumineux du phare incendiait les fenêtres. Un balcon, une hampe de drapeau et un écusson aux armes du Danemark. Le corps était étendu sur le tapis rougeâtre d'un studio encombré de bibelots sans valeur. Dehors, 5 personnes regardèrent passer le commissaire sans prononcer une parole. Sur les murs, des photographies d'actrices, des dessins découpés dans les journaux galants et mis sous verre, quelques dédicaces de femmes. Le Pommeret avait la chemise arrachée. Ses souliers étaient encore lourds de boue.
Les grands bras des feux sur la mer, le vent qui se roule dans la poussière, la neige et l'oubli aussi, tout aux tavernes et aux filles, les chants par l'orage couché, les rires et les chants engrangés, la brume qui dort sous la pluie, tout aux tavernes et aux filles. De ciel à la dune, le vin qui nous promet la lune, la longueur des mers en défi, tout aux tavernes et aux filles. Les fruits du hasard et le jour, les gestes perdus, les choses de rien, les lames aux aguets des bandits, tout aux tavernes et aux filles, les grands bras des feux sur la mer, le vent qui saoule dans la poussière, les ailes des chiens et les îles, tout aux tavernes et aux filles.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Après cette nouvelle pause musicale, nous revenons au roman de Georges Simenon, Le chien jaune. Le médecin s'était penché vers le pommeret. Strychnine, dit-il. Du moins, je le jurerai, regardez ses yeux, et surtout, rendez-vous compte de la raideur de son corps. L'agonie a duré plus d'une demi-heure, peut-être plus. Où étiez-vous ? Demanda Maigret à la logeuse. En bas ? Je soulouais tout le premier étage à M. Le Pommeret qui prenait ses repas chez moi. Il est entré dîner vers 8 heures. Il n'a presque rien mangé. Je me souviens qu'il a prétendu que l'électricité marchait mal, alors que les lampes éclairaient normalement. Il m'a dit qu'il allait ressortir, mais qu'il prendrait d'abord un cachet d'aspirine, car il avait la tête lourde. Le commissaire regarda le docteur d'une façon interrogative. « C'est bien cela, les premiers symptômes. » « Qui se déclare combien de temps après l'absorption du poison ?»« Ça dépend de la dose et de la constitution de l'homme, parfois une demi-heure, d'autres fois 2 heures. »« Et la mort ?» ne survient qu'à la suite de la paralysie générale. Mais il y a auparavant des paralysies locales. Alors il a sans doute voulu appeler. Il était couché sur ce divan. Ce même divan qui valait au logis de Le Pommeret d'être appelé la maison des turpitudes. Les gravures galantes étaient plus nombreuses qu'ailleurs autour du meuble. Une veilleuse distillait une lumière rose. Il s'est agité comme dans une crise de délirium très mince. La mort l'a pris par terre. Maigret marcha vers la porte qu'un photographe voulait franchir et la lui ferma au nez. Il calculait à mi-voix. Le Pommeret a quitté le café de l'amiral un peu après 7 heures. Il avait bu une fine à l'eau. Ici, un quart d'heure plus tard, il a bu et mangé. D'après ce que vous me dites des effets de la strychnine, il a pu tout aussi bien avaler le poison là-bas qu'ici. Il se rendit tout à coup au rez-de-chaussée où la logeuse pleurait, encadrée par 3 voisines. Les assiettes, les verres du dîner. Elle fut quelques instants sans comprendre. Et quand elle voulut répondre, il avait déjà aperçu dans la cuisine une bassine d'eau encore chaude, des assiettes propres à droite, des salles à gauche et des verres. « J'étais occupé à faire la vaisselle quand un sergent de ville arrivait. Garder la maison mettait tout le monde dehors sauf la propriétaire, et pas un journaliste, pas un photographe, qu'on ne touche pas un verre ni un plat. » Il y avait 500 mètres à parcourir dans la bourrasque pour regagner l'hôtel. La ville était dans l'ombre. C'est à peine s'il restait 2 ou 3 fenêtres éclairées, à de grandes distances l'une de l'autre. Sur la place, par contre, à l'angle du quai, les 3 baies verdâtres de l'hôtel de l'amiral étaient illuminées. Mais à cause des vitraux, elles donnaient plutôt l'impression d'un monstrueux aquarium. Quand on approchait, on percevait des bruits de voix, une sonnerie de téléphone, le ronron d'une voiture qu'on mettait en marche. « Où allez-vous ? » questionna Maigret. Il s'adressait à un journaliste. « La ligne est occupée, je vais téléphoner ailleurs. Dans 10 minutes, il sera trop tard pour mon édition de Paris. » L'inspecteur Leroy, debout dans le café, avait l'air d'un pion qui surveille l'étude du soir. Quelqu'un écrivait sans trêve. Le voyageur de commerce restait ahuri mais passionné dans cette atmosphère nouvelle pour lui. Tous les verres étaient restés sur les tables. Il y avait des verres à pied ayant contenu des apéritifs, des demi encore gras de mousse, des petits verres à liqueur. « À quelle heure a-t-on débarrassé les tables ?» Emma chercha dans sa mémoire. « Je ne pourrais pas dire, il y a des verres que j'ai enlevés au fur et à mesure, d'autres sont là depuis l'après-midi. Le verre de Monsieur Le Pommeret ?» « Qu'est-ce qu'il a bu, Monsieur Michou ?» Ce fut Maigret qui lui répondit « Une fine à l'eau. »
Elle regarda les soucoupes les unes après les autres. 6 francs, mais j'ai servi un whisky à un de ces messieurs et c'est le même prix. Peut-être est-ce ce verre-ci, peut-être pas. Le photographe, qui ne perdait pas le nord, prenait des clichés de toute cette verrerie glauque étalée sur les tables de marbre. « Allez me chercher le pharmacien !» commanda le commissaire à Leroy. Et ce fut vraiment la nuit des verres et des assiettes. On en apporta de la maison du vice-consul de Danemark. Les reporters pénétraient dans le laboratoire du pharmacien, comme chez eux, et l'un d'eux, ancien étudiant en médecine, participait même aux analyses. Le maire, au téléphone, s'était contenté de laisser tomber d'une voix coupante « Toute votre responsabilité !» On ne trouvait rien. Par contre, le patron surgit soudain et questionna « Mais qu'est-ce qu'on a fait du chien ?» Le réduit où on l'avait couché sur de la paille était vide. Le chien jaune, incapable de marcher et même de se traîner à cause du pansement qui emprisonnait son arrière-train, avait disparu. Les vers ne révélaient rien. Celui de M. Le Pommeret a peut-être été lavé, je ne sais plus, dans cette bousculade, disait Emma. Chez la logeuse aussi, la moitié de la vaisselle avait été passée à l'eau chaude. Ernest Michou, le teint terreux, s'inquiétait surtout de la disparition du chien. C'est par la cour qu'on est venu le chercher. Il y a une entrée sur le quai, une sorte d'impasse. Il faudrait condamner la porte, commissaire. Sinon, penser qu'on a pu pénétrer ici sans que personne s'en aperçoive et repartir avec cet animal dans les bras. On eût dit qu'il n'osait pas quitter le fond de la salle, qu'il se tenait aussi loin des portes que possible. Il était 8 heures du matin. Maigret, qui ne s'était pas couché, venait de prendre un bain et achevait de se raser devant un miroir suspendu à l'espagnolette de la fenêtre. Il faisait plus froid que les jours précédents. La pluie trouble ressemblait à de la neige fondue. Un reporter en bas guettait l'arrivée des journaux de Paris. On avait entendu siffler le train de 7h30. Dans quelques instants, on verrait arriver les porteurs de l'édition sensationnelle de la journée. Sous les yeux du commissaire, la place était encombrée par le marché hebdomadaire. Mais on devinait que ce marché n'avait pas son animation habituelle. Les gens parlaient bas, des paysans semblaient inquiets, des nouvelles qu'ils apprenaient. Sur le terre-plein, il y avait une cinquantaine d'étals avec des mottes de beurre, des œufs, des légumes, des bretelles et des bas de soie. À droite, des carrioles de tout modèle stationnaient. Et l'ensemble était dominé par le glissement ailé des coiffes blanches aux larges dentelles. Maigret ne s'aperçut qu'il se passait quelque chose qu'en voyant toute une portion du marché changer de physionomie. Les gens s'agglutinaient et regardaient dans une même direction. La fenêtre était fermée, il n'entendait pas les bruits, ou plutôt, ce n'était qu'une rumeur confuse qui lui parvenait. Il chercha plus loin. Au port, quelques pêcheurs chargeaient des paniers vides et des filets dans des barques. Mais il s'immobilisait soudain, faisait la haie au passage des 2 agents de police de la ville qui conduisaient un prisonnier vers la mairie. Un des policiers était tout jeune, imberbe. Son visage était pétri de naïveté. L'autre portait de fortes moustaches à cajou et d'épais sourcils parvenaient presque à lui donner un air terrible. Au marché, les discussions avaient cessé. On regardait les 3 hommes qui s'avançaient. On se montrait les menottes, serrant les poignets du malfaiteur. Un colosse! Il marchait penché en avant, ce qui faisait paraître ses épaules 2 fois plus larges. Il traînait les pieds dans la boue, et c'était lui qui semblait tirer les agents en remorque. Il portait un vieux veston quelconque. Sa tête nue était plantée de cheveux de rue, très courts et très bruns. Le journaliste courait dans l'escalier, ébranlait une porte, criait à son photographe endormi « Benoît, Benoît, vite, vite, debout, un cliché, épatant !» Il ne croyait pas si bien dire.
car pendant que Maigret effaçait les dernières traces de savon sur ses joues et cherchait son veston sans quitter la place des yeux, il se passa un événement vraiment extraordinaire. La foule n'avait pas tardé à se resserrer autour des agents et du prisonnier. Brusquement, celui-ci, qui devait guetter depuis longtemps l'occasion, donna une violente secousse à ses deux poignets. De loin, le commissaire vit le piteux bout de chaîne qui pendait aux mains des policiers. Et l'homme fonçait sur le public. Une femme roula par terre. Des gens s'enfuirent. Personne n'était revenu de sa stupeur que le prisonnier avait bondi dans une impasse à 20 mètres de l'hôtel de l'amiral, tout à côté de la maison vide dont la boîte aux lettres avait craché une balle de revolver le vendredi précédent. Un agent, le plus jeune, faillit tirer, hésita, se mit à courir en tenant son arme de telle manière que Maigret attendait l'accident. Un auvent de bois céda sous la pression des fuyards et son toit de toile s'abattit sur les mottes de beurre. Le jeune agent eut le courage de se précipiter tout seul dans l'impasse. Maigret, qui connaissait les lieux, acheva de s'habiller sans fièvre. Car ce serait désormais un miracle de retrouver la brute. Le boyau, large de 2 mètres, faisait 2 coudes en angle droit. 20 maisons qui donnaient sur le quai ou sur la place avaient une issue dans l'impasse. Et il y avait en outre des hangars, les magasins d'un marchand de cordage et d'articles pour bateaux, un dépôt de boîtes de conserve, tout un fouillis de constructions irrégulières, des coins, des recoins, des toits facilement accessibles qui rendaient une poursuite à peu près impossible. La foule maintenant se tenait à distance. La femme qu'on avait renversée, rouge d'indignation, tendait le poing dans toutes les directions, tandis que des larmes venaient trembler sous son manteau. Le photographe sortit de l'hôtel, un trench coat passé sur son pyjama, pieds nus. Et nous avons donc terminé pour ce soir la lecture du « Chien jaune » de Georges Simenon. Nous reprendrons cette lecture demain. Bonne soirée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.